Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles. On est en direct à la radio, à la télé, sur le web de 10h à midi. Et on salue tous ceux et celles qui nous écoutent en podcast en dehors de France. Le programme de l'heure à venir, c'est d'abord l'immobilier de bureau qui connaît la crise, enfin qui connaît plutôt les crises, celle des usages et celle des valorisations. Est-ce que la flexibilité et les services ajoutés sont les solutions à cette double crise? C'est l'avis de Victor Caro de Comet dans quelques minutes. Le question-réponse du jour portera sur le livret A. Où placer son argent si son livret A est plein? On répondra notamment à Arnaud qui m'a écrit qu'il a 20 000€ sur son livret justement et il voudrait acheter des places de parking. Est-ce qu'il liquide son livret ou est-ce qu'il s'endette? On vous répondra à Arnaud d'ici une grosse demi-heure avec Christian Fontaine du Revenu. Et puis on investira thématiquement en fin d'émission dans les savoir-faire ancestraux. De quoi on va parler? De masques de sarcophage, on va parler d'horloges de table et démo. Oui, de tout ça, avec la maison d'enchères Agut. Ce sera vers 11h50. Au programme, il y a vous aussi, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, notamment en podcast. Merci à vous. Vous participez, vous réagissez. L'adresse est direct@bfmbusiness.fr ou sur LinkedIn en message privé. Je vous lis. On part à Euronext rejoindre Antoine. Antoine, moment de flottement sur notre CAC 40. Les deux stars du jour, c'est le pétrole et l'or. Enfin, en tout cas, les stars qui font l'actualité. Tendance plutôt fragile, hein.
Ouais. Ben oui, alors qu'on a frôlé un nouveau record historique absolu hein, pour le CAC 40 ce matin, on était à 3 points près. Effectivement, ça a tendance à s'étioler un petit peu. Là, plus 0,1%, on reste quand même dans le vert. 8213 points à l'instant. Le DAX à Francfort repasse légèrement dans le rouge. Moins 0,02%, plus 0,3% pour l'Eurostock 50. Toujours une nette performance de la tech hein, avec l'Euronext Tech Leaders qui gagne 0,97%. Et vous l'avez dit, hein, l'actualité du matin, ces deux chiffres, hein, vraiment, c'est le pétrole qui se retrouve au plus haut depuis octobre dernier, octobre 2023. On est à 88,70 maintenant pour le baril de Brent de Mer du Nord. Il y a une forte pointe de tension du côté des 9h-10h avec donc ces bombardements israéliens en Syrie qui ont touché des militaires iraniens. Promesse de réplique hein, de la part de l'Iran. On sent que ça se tend vraiment entre les deux puissances. On a l'once d'or fin qui a signé un nouveau record historique il y a une grosse dizaine de minutes à 2283$ l'once. On est juste en dessous, hein, 2281. Donc vous voyez qu'il y a des pointes de tension hein, sur ce marché, même si on reste bien orienté. Alors logiquement c'est Total qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à plus 2,8%, 65,25. On a l'ensemble des secteurs touchés par les matières premières qui ont tendance à réagir. ArcelorMittal plus 1,75, on est à 25,90. La tech, hein, on le disait avec STMicro plus 1,6%, 40,57€. Puis le luxe qui est pas trop mal orienté avec Hermès notamment qui prend 0,8% à 2385. À la baisse on en a parlé, baisse des chiffres d'immatriculation pour Stellantis hein, qui perd 1,39% à 25,97. Notez Dassault Systèmes qui sous-performe la techno, qui perd 1,3% à 40,52€. Le CAC donc plus 0,14, 8216 points. Et puis l'euro n'arrive pas à profiter des bons indices PMI européens publiés ce matin. On stagne là sous 1,08 face au dollar à 1,0741, Lorraine.
Antoine, ce n'est pas votre histoire aujourd'hui à suivre, mais c'est l'œil de Goldman.
Tout pour investir, l'histoire d'Antoine.
Vous êtes rejoint par la stratégiste action de l'équipe de Goldman Sachs, Lilia Pétavin. Gros programme. Avec vous, on a quelques minutes pour parler de l'Eurostock, du Yen. Et puis, Lilia va nous dire ce sur quoi Goldman concentre son attention cette semaine. À vous.
Effectivement. Bonjour Lilia.
Bonjour Antoine.
Alors, on va parler justement de nos valeurs européennes qui se distinguent quand même ces derniers temps, notamment face aux valeurs américaines. On voit l'Eurostock 50 qui surperforme quand même le S&P 500. Alors, bah, c'est toujours comme tout phénomène boursier. Une fois que c'est fait, est-ce qu'on continue à miser dessus? Est-ce qu'on temporise? Qu'est-ce qu'on fait?
Oui, et en fait, malgré la surperformance des actions européennes depuis le début de l'année et à nouveau ce mois de mars, l'écart de valorisation entre les actions européennes et les actions américaines n'a jamais été aussi grand historiquement. Donc là, aux États-Unis, le S&P 500 traite dans son top 10% historique en termes de multiples, alors que les actions européennes sont légèrement en dessous de leur moyenne historique si on regarde leur niveau de valorisation. Et nous venons de revoir à la hausse nos prévisions de prix à 12 mois pour les actions type Stoxx Europe 600 ou Eurostoxx 50. Nous les voyons 5% plus haut en termes de prix à 12 mois, et si j'inclus les dividendes, on atteint 9-10%. C'est vrai qu'en Europe, nous attendons 5 baisses des taux de la BCE cette année à commencer à partir du mois de juin, alors que nous en attendons 3 aux États-Unis, ce qui est à peu près pricé dans la courbe des taux aux États-Unis, alors que ce n'est pas le cas en Europe. Et l'autre avantage que je vois aujourd'hui pour les actions européennes, c'est que certes, le taux de croissance du PIB est bien plus faible qu'aux États-Unis, mais on part d'un point plus bas, donc de façon séquentielle, l'accélération que nous attendons devant nous est plus importante qu'aux États-Unis, où on voit même plutôt une décélération de façon séquentielle.
Il y a une autre zone qui évidemment a fait l'actualité, notamment la semaine dernière, c'est la zone Japon, puisque le yen a touché des plus bas qui dataient des années 90 hein, face au dollar. Alors, pour ça, la bourse japonaise en a bien profité, et que ce soit le Nikkei, que ce soit l'indice large Topix, on a vu de très très bonnes performances récemment. Là aussi, comment on se positionne ?
Et c'est vrai que c'est la deuxième région en dehors des États-Unis. Donc nous avons l'Europe et le Japon comme zone de prédilection, là où nous attendons les plus gros rendements du marché actions. Le Topix, c'est les actions japonaises de manière générale sont des actions de flux étrangers. Aujourd'hui, les flux étrangers ont commencé à remonter, à repartir dans ce marché-là. Néanmoins, les investisseurs américains n'ont pas encore participé au rallye que nous avons eu ces derniers mois. Donc s'ils s'engagent dans ce rallye, ça devrait être positif pour les actions japonaises. Nous avons également, vous l'avez souligné, le yen qui a été plus faible. Donc les actions japonaises sont très internationales. Elles réalisent 40% de leurs ventes en dehors du Japon, donc c'est un avantage. Et bien sûr, il y a la réforme du Tokyo Stock Exchange qui encourage les entreprises locales à divulguer, à publier des métriques de rentabilité. Il y a déjà un petit peu plus de 50% du marché actions japonais qui l'a fait. Ça a généré une très grosse surperformance de ces actions. Et donc, quelque part, nous attendons la même chose de l'autre moitié du marché actions japonais.
Et un petit point sur la macroéconomie. Si vous aviez un chiffre à retenir cette semaine, bon, a priori, l'inflation européenne.
Exactement. Demain, 10h, chiffre d'inflation européenne. La semaine dernière, nous avons eu déjà les chiffres de l'Espagne et puis plus récemment de la France, de l'Allemagne. Et nous avons eu aussi le core PCE aux États-Unis la semaine dernière. Et ce que l'on a vu, c'est un léger ralentissement de façon glissante mensuellement par rapport aux données que nous avions eues en janvier et en février. Donc nous continuons de penser que l'inflation va ralentir pour s'établir autour de 2,4% aux États-Unis en fin d'année et ralentir également en zone euro.
5 baisses de taux de la BCE hein, quand même, mais les prévisions sont spectaculaires et ça pourrait donc continuer à faire réagir les marchés actions et ses arbitrages. Merci beaucoup Lilia Pétavin, merci. Et on se retrouve dans 15 jours comme d'habitude.
À faire bouger les marchés actions en attendant peut-être le rapport sur l'emploi vendredi. Merci beaucoup Lilia Pétavin de Goldman Sachs et merci Antoine qu'on retrouve demain évidemment pour vos rendez-vous boursiers. À suivre, c'est l'immobilier. Il est l'heure de parler immobilier de bureau avec Marie-Cœur de Roy, notre invitée.
Tout pour investir, la place de l'immo.
L'IMO, comme tous les jours, dans Tout pour investir, vers 11h15. C'était le 1er avril hier. Parfois, des choses changent le premier du mois. Marie, vous avez relevé pour nous une petite modification pour les locataires et les propriétaires.
Deux modifications importantes. La première, c'est sur le fameux bouclier loyer dont on avait beaucoup parlé au moment où l'inflation explosait les compteurs. Alors, ce bouclier loyer, c'est comme ça que l'a appelé le gouvernement. L'idée, c'était de plafonner ce qu'on appelle l'IRS, l'IRL. Oh, je suis fatiguée ce matin. L'indice de référence des loyers. En réalité, cet indice, il sert de référence pour les propriétaires bailleurs. Ils savent que tous les ans, à la date anniversaire du bail, ils peuvent augmenter le loyer, mais de pas plus que l'IRL qui suit l'inflation. Sauf qu'en 2022, vous le savez, l'inflation a dépassé les 6%. Donc le gouvernement a mis en place un plafonnement de cet IRL, le fameux bouclier loyer, qui était à 3,5%. Et donc c'est terminé depuis le 31 mars. Ça veut dire que désormais l'IRL va suivre l'inflation. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les locataires non plus, puisque je rappelle que l'inflation elle est retombée bon an mal an autour de 3%, donc bien en dessous du fameux bouclier à 3,5%. Donc première nouveauté, la fin du bouclier loyer, mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les locataires. Et l'autre élément, évidemment, c'est la fin de la trêve hivernale, ce qui veut dire la reprise des expulsions locatives. On rappelle qu'il s'agit d'expulser de vrais locataires. Les squatteurs ne sont pas couverts par la trêve hivernale. Donc on parle de gens qui sont entrés légalement dans les lieux, qui ont signé un bail en bonne et due forme et qui n'ont potentiellement pas respecté ce bail, donc impayé de loyer, dégradation, etc. Je rappelle aux propriétaires bailleurs qui ne peuvent pas expulser du jour au lendemain leurs locataires, même en dehors de la trêve hivernale, puisqu'il faut quand même une procédure et une décision de justice pour décider de l'expulsion pure et simple du locataire. Cette procédure, elle prend en moyenne 6 mois, 1 an, et c'est une moyenne, ça peut être plus. Donc voilà, je rappelle aussi ce que nous dit la Fondation Abbé Pierre, c'est que cette année, 140 000 locataires sont menacés d'expulsion, et je m'arrête là.
Des vrais locataires, pas des squatteurs, c'est important de le rappeler. Marie Cœur de Roy, nous ne sommes pas seuls, nous allons parler immobilier de bureau, enfin plus précisément, on va parler de la crise de l'immobilier de bureau, ou plutôt les crises de l'immobilier de bureau. Bonjour Victor Caro.
Bonjour Lorraine.
Co-fondateur de Comet. Vous êtes un peu notre médecin de l'immobilier de bureau aujourd'hui. On va prendre le pouls des différentes maladies qui le gangrènent et puis vous allez nous apporter quelques solutions.
Bah d'abord, en quoi il est malade notre immobilier de bureau? Moi je le trouve pas si malade.
Ah, moi, pour le coup, je le trouve très malade. On peut voir deux grandes crises de l'immobilier de bureau. Une crise des usages et une crise des valorisations. La crise des valorisations, c'est presque plus facile de commencer par celle-là parce qu'elle est, contrairement à la crise des usages qui est vraiment structurelle, j'y reviendrai, la crise des valorisations, elle est mi-conjoncturelle, mi-structurelle. Structurelle parce qu'elle est liée à la crise des usages et qu'évidemment, avec le désamour du bureau, on sent que le produit bureau plaît de moins en moins. Et à côté de ça, également conjoncturelle, avec la hausse des taux qui a évidemment eu un impact sur la valorisation. La réalité de la crise des usages, elle est colossale. La crise des usages, on peut tirer quelques fils, mais le premier à tirer, c'est que le télétravail, ça a été un grand sujet ces 4 dernières années, le télétravail est là pour rester. Et on se pose beaucoup de questions.
Mais le bureau aussi, je vous interromps Victor, mais à un moment donné, le bureau aussi, c'est pour ça que je dis que je ne le trouve pas si malade en fait, cet immobilier de bureau, parce qu'en réalité, on nous a annoncé la mort du bureau en post-confinement, en nous disant voilà, le télétravail va tout chambouler, et on ne travaillera plus jamais au bureau, on travaillera de chez nous. Ouais. Bah, la réalité, c'est que tu peux mettre un peu de télétravail, mais restera toujours le bureau quand même.
Est-ce que vous connaissez la courbe de Gartner ou la courbe du hype?
Non, allez-y.
Alors, la courbe du hype, c'est exactement, elle dit exactement ça, elle dit qu'une adoption d'usage ou un changement en fait, d'usage, une rupture technologique a tendance à être adopté, mais de façon non binaire, non linéaire, de façon un peu stupide en fait, avec une courbe qui va faire une sorte de S où on va dès le début considérer que ce nouvel usage peut tout changer. C'est 2020 avec le télétravail. Les GAFAM annonçaient qu'il n'y a plus besoin de bureau ad vitam aeternam, qu'on avait la possibilité de télétravailler à peu près quel que soit son métier. Été 2021, branle-bas de combat, retour en arrière parce qu'on réalise ce que IBM avait réalisé en 2000, Yahoo en 2010. On réalise qu'il y a un double impact sur du télétravail, peut-être sur la productivité, mais surtout sur la capacité à collaborer et la capacité à créer du lien, ouais. Le lien qui se délite. Donc branle-bas de combat, plus de télétravail autorisé. Et on réalise que cette adoption du télétravail, elle va se faire de façon beaucoup plus modérée, beaucoup plus évolutive.
Nuancée.
Beaucoup plus nuancée. Et donc, est-ce que le télétravail sera un télétravail de 3 à 4 jours par semaine pour tous les corporates? Absolument pas. Est-ce qu'on sera entre 0,5 et 1 jour et demi? Peut-être, probablement. Mais ce qui fait qu'il y a un double impact de ce télétravail. Le premier impact, c'est qu'on va avoir besoin de moins de bureaux. On aura toujours besoin de bureaux. Je suis un fervent défenseur du bureau. Mais le premier impact, c'est qu'on aura besoin de moins de bureaux. Et le deuxième, c'est que ce bureau devra être très différent.
C'est-à-dire, parce que vous n'allez pas nous ressortir le baby-foot quand même.
Oh là, alors baby-foot, effectivement, mais baby-foot pour moi, c'était exactement l'exemple de ce qu'il fallait pas faire.
On était à ça de la coupelle de frifré là.
Ouais. Je me demande s'il n'est pas déjà dit sur l'un des plateaux, mais bien avant le Covid, que le baby-foot, c'était vraiment pas le bon usage. Mais si vous voulez, la réalité, elle est que au quotidien, si on a un col blanc,
on a une table de ping-pong.
On fait. Attention, c'est presque carton jaune là. Si on regarde le travail d'un col blanc, un col blanc va faire 3 types d'activités au quotidien, dans des proportions différentes selon le métier, mais 3 activités. De la production, je travaille seul sur un document, je lis un email. De la collaboration, évidemment, là je mets ma pierre à côté de celle du voisin pour créer une cathédrale. Et la sociabilisation qui n'était pas du tout importante à la génération de nos grands-parents, où en fait on passait toute sa vie dans une entreprise, quel que soit l'environnement, mais désormais la sociabilisation, qui est le lien que je vais créer avec mes collègues et le sentiment d'appartenance que je vais développer, qui vont me permettre, qui vont faire que je vais rester plus ou moins longtemps à l'entreprise. Ouais. La réalité, elle est que le télétravail se prête beaucoup mieux à la production qu'au reste. On est plus productif dans une certaine mesure lorsqu'on n'est pas dérangé. Dans un open space, bizarrement, on est dérangé toutes les 7 minutes.
Ouais, mais quand on est ça chez soi, on veut faire la machine à laver qu'on n'a pas fait, ranger la chambre des enfants. C'est une autre sorte de disruption. Ouais,
ouais. C'est pour ça qu'il faut évidemment le faire dans de bonnes conditions, mais lorsqu'on regarde le rôle du bureau demain, c'est de moins en moins d'être un bureau derrière lequel je vais travailler seul, d'être un lieu de production, mais d'être davantage un lieu de collaboration et de sociabilisation.
Donc de grands espaces de réunion, mais finalement peu d'espaces de bureaux perso, quoi.
Toujours quelques espaces de bureau, mais pas perso. Beaucoup d'espaces de réunion, beaucoup d'espaces de sociabilisation et quelques bureaux qui permettent de travailler entre deux réunions. Mais la réalité, elle est que le bureau est finalement très mal nommé. On va plus au bureau pour aller derrière un bureau.
Marie, Victor, vous nous avez décrit la crise des usages, on comprend. Maintenant, quel impact sur la valorisation? Mettez-nous un petit peu de chiffres là-dessus.
Alors, quelques chiffres. On s'attend, alors que ce sujet du marché, s'attend à ce qu'il y ait au moins 20% des surfaces de bureaux qui disparaissent en Île-de-France. 20% sur les 50 millions de mètres carrés, on parle de 10 millions de mètres carrés. Mmh. Évidemment, pas écus répartis. Évidemment, les bureaux en plein centre du QCA auront tendance à être re-remplis très vite. On voit que les vacances aujourd'hui, elle est frictionnelle, inférieure à 3%. Mmh. La réalité, elle est qu'il y a donc 10 millions de mètres carrés qui devraient disparaître. Peut-être même plus, étant donné que lorsqu'on interroge des entreprises, on réalise que sur les surfaces qu'elles occupent, et donc sur quelque part les 80% de surfaces qui vont continuer à être occupées, on voit que le taux d'occupation moyen est dramatiquement faible. Il y a une étude CBRE qui sortit en 2023, et qui dit que 50% des entreprises interrogées qui font toute taille ont un taux d'occupation inférieur à 40%. Oh. C'est pathétique.
Bah, surtout quand on sait ce que coûte l'immobilier de bureau.
C'est le deuxième poste de coût, deuxième à troisième poste de coût derrière les salaires. C'est généralement le deuxième. Donc la réalité, elle est que moins de bureaux va être consommé, ce qui veut dire qu'il y a un impact drastique sur tous les bureaux qui vont disparaître. Et la vraie réalité, elle est que le modèle même, le business model du bureau, où en tant qu'utilisateur, si je n'achète pas mes bureaux, je dois signer un bail long et basta, ce modèle doit évoluer.
Et c'est là où vous arrivez, Comet.
C'est là où je pense qu'on arrive effectivement.
Qu'est-ce que vous faites justement? Faudrait le dire quand même à nos auditeurs et
alors,
spectateurs.
Ce qu'on fait, c'est qu'on est spécialiste de l'immobilier de bureau ultra flexible, ultra servicé.
Qu'est-ce que c'est? On traduit, c'est le bureau-hôtel.
C'est le bureau-hôtel. Mmh. Ce sont des lieux de réunion, de séminaires, d'événementiels qui vont permettre aux équipes de sortir de leur bureau le temps d'une demi-journée ou d'une journée en ayant accès à des lieux comme un hôtel lifestyle dans lequel vivre une expérience.
Mais ils sont où vos bureaux? Enfin, façon de parler.
Alors, ils sont. nos bureaux, ils sont partout. Ils sont partout là où les entreprises ont besoin d'être. On est à Bruxelles, Madrid et Paris.
Non, mais dans majoritairement quel type de locaux?
Alors aujourd'hui, on a tout type de locaux. On peut être dans un bâtiment indépendant, Place des Victoires ou à Terne ou Étoile, dans une tour à la Défense, dans le cœur Défense. On a le 23 et le 24e étage. On
mais
peut
vous,
être
êtes
dans une ancienne...
vous êtes propriétaire?
Aujourd'hui, on est sur un modèle où on est opérateur. On a toujours pris à bail. Puis depuis 2020, on s'est mis à signer des contrats management, et donc des contrats partenariaux avec les investisseurs en face qui investissent le CAPEX avec lesquels on va partager la valeur qu'on crée. Notre conviction profonde, elle est double. La première, elle est qu'on doit aller vers une convergence des opérateurs et des propriétaires pour réaliser notre deuxième conviction, qui est que demain, en tant que locataire, on ne signera pas simplement un bail de 3, 6 ou 9 ans et c'est tout. On signera en fait 3 contrats différents. Et c'est d'ailleurs ce que l'étude CBRE montre. 40% des utilisateurs veulent déjà ça, des baux flexibles. On signera 3 contrats. Un bail, mais sur uniquement les surfaces dont je suis sûr d'avoir besoin. Parce que derrière les 40% ou 50% d'occupation moyen, en intra-week, on réalise évidemment que c'est pas linéaire. On va être sur du 30% le lundi, 20% le vendredi, et entre 50 et 80% le reste de la semaine. Donc la réalité, elle est qu'on doit signer demain 3 contrats. Du bail, mais sur potentiellement 40% seulement des surfaces qu'on utilisait avant. J'avais auparavant 5000 m2. Demain, j'en signerai 2000. Mais sur un bail, non pas de 3 ans, mais sur un bail de 9 ans ferme.
Le minimum utilisable.
Le minimum utilisable.
Mais sur un bail, pour le coup, beaucoup plus engageant.
Beaucoup plus engageant, parce que... Alors, potentiellement, si c'est 9 ans, parce que la réalité, c'est qu'à part des startups qui n'ont aucune idée d'où elles seront dans 3 ans, un grand groupe, il sait que bon an, mal an, d'ici 6 à 9 ans, il sera encore là. Mais, donc sur une surface, sur un baseload de surface, signer un bail. Et à côté de ça... C'est là qu'on entre dans l'ère de la flexibilité et du service. Signer un contrat de flexibilité quand j'en aurai besoin pour ajouter des postes de travail pour une équipe projet entre New York, Angoulême et New York qui aurait besoin de travailler pendant 6 mois à Paris. Je ne vais pas ajouter une surface de... Il faut trouver l'entreprise qui a besoin de cette équipe projet-là. Et surtout de la flexibilité sur la salle de réunion. Parce que la réalité, elle est qu'en intra-week, lorsqu'on est au bureau, encore une fois, je reviens sur mon point précédent, on n'est pas là pour produire, on est là pour collaborer, sociabiliser. Mmh. Et que les jours où on a absolument besoin d'être tous là au bureau, et ben en fait, on n'est pas là pour occuper des places derrière des bureaux, on est là pour occuper des salles de réunion.
Pardon, mais je vais gâcher. Enfin, franchement, Victor, c'est parfait. Enfin, moi, j'adhère. Hein. Mais c'est du coworking un peu quand même.
Alors, le coworking, c'est de la flexibilité sur le poste de travail en moyenne pour des durées de 2 ans. À côté de ça, on peut l'appeler, si tu veux, du co-meeting. Le co-meeting, ça va être de la flexibilité à la maille de l'heure ou de la journée pour louer des salles de pour louer une salle de réunion avec plus ou moins de services. Et généralement, on a besoin, enfin, assez souvent, on a besoin de services parce que ce sont des moments qu'on a besoin d'événementialiser. Ouais, ouais. Et la réalité, elle est qu'il y a beaucoup d'acteurs du coworking qui se différencient assez mal les uns des autres. Sur ce marché, on est quasiment les seuls.
Et bon, et du coup, là, j'imagine qu'il y a des boîtes qui sont déjà friandes.
Friandes.
Du modèle Comet, est-ce qu'il y a des boîtes qu'on connaît, des entreprises qu'on connaît, des grosses entreprises, des petites entreprises? Cette flexibilité, elle s'adresse à qui aujourd'hui et demain, elle s'adressera à qui?
La réalité, cette flexibilité, elle est déjà structurelle dans le modèle de beaucoup d'entreprises. Pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, on a fait 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, on est rentable. Et le gros de nos clients sont des clients du CAC 40 ou SBF 120.
Ah ouais.
Notre top 3 clients sont des entreprises que vous connaissez très bien, dont certaines dans le luxe, vous connaissez très bien, ceux qui nous donnent de l'énergie aussi au quotidien. Et en fait, nos clients sont avant tout ceux-là qui vont, par exemple l'année dernière, ces acteurs-là ont fait plus de 600 événements aux réunions chez nous.
Ouais.
C'est-à-dire que ça devient structurel dans leur modèle. Et l'activité qu'on a lancée depuis l'année dernière, c'est de se dire, bah, vu qu'on sait opérer l'ultra-flexibilité et l'hyper-service qu'est ce co-meeting, qu'on est en fait les seuls à savoir bien opérer, on s'est également mis à faire ce qu'on peut appeler du coworking pour simplifier.
Victor, Marie, néanmoins, vous nous citez des grosses entreprises, on comprend plutôt CAC 40 et SBF 120. Si je suis une PME et que j'ai moi-même des problèmes vis-à-vis de mon bureau, de mon engagement, de ma visibilité, est-ce que je peux quand même être client chez vous? Quel est l'intérêt pour moi, petite structure, d'aller fonctionner sur le triptyque que vous nous avez évoqué avec un bail à long terme, un contrat de flexibilité et puis quelque chose autour de quelque chose de plus événementiel, on va dire? Ça fait peur quand même, vous avez beaucoup d'admin, 3 contrats à la place d'un.
Alors demain sera peut-être un seul contrat où on vous dira, vous savez quoi, confiez-nous ce budget-là et on s'occupe de vous fournir et la flexibilité, et le service et les surfaces. Ça se finira peut-être comme ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur notre off-meeting, qui est aujourd'hui le gros de notre chiffre d'affaires, nos clients sont tout type d'entreprises, mais très focalisés sur des PME, ETI et très grands groupes. Sur notre offre de bureaux services, on a tout type d'entreprises, là pour le coup, et on fait déjà, en fait, on opère déjà ce que je vous mentionnais, étant que dans le bâtiment Lumière de Primonial, c'est là qu'on a fait notre premier test grandeur nature avec et eux qui opèrent, et Primonial qui opère du bail, et nous qui opérons de la flexibilité sur le desk et sur la salle de réunion. Et là, on a tout type d'entreprises, dont des PME, et qui sont venus prendre notre offre de bureau, consommer cette offre de bureau, parce qu'on leur a dit, écoutez, c'est simple, la raison numéro un pour laquelle généralement des résidents de coworking décident de partir parce qu'ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas assez de salles de réunion. On revient toujours à ce problème-là. Les années à venir,
la salle de réunion dont l'usage a aussi pivoté, ça, c'est un endroit où on téléphone, c'est un endroit où on fait des one-to-one, c'est un endroit où on fait toujours des réunions, des repas aussi.
Oui, et la réalité, elle est qu'on leur a dit, écoutez, c'est simple, contrairement à tous les autres acteurs du coworking sur le marché, on va vous proposer ce qu'aucun ne peut proposer, qui est 10 fois plus de places en salle de réunion que chez n'importe lequel d'entre eux. Ce qui fait que vous n'aurez plus jamais ce problème de « oui, mais attendez, je suis content d'avoir la flexibilité sur le desk, mais en fait, j'ai pas assez de salle de réunion. »
Mais c'est dingue, moi, je trouve, finalement, parce que c'est vrai qu'au démarrage, alors encore une fois, j'ai bien compris que c'était pas exactement du coworking que vous faisiez, mais au démarrage du coworking, je me souviens que l'étonnement était que ça puisse plaire aux grands groupes. C'est-à-dire, au départ, on était là en disant « c'est une flexibilité pour les petites entreprises, les moyennes entreprises, petites entreprises. » Et j'ai fait de sujets pour dire « mais regardez, il y a aussi des boîtes du CAC 40 pour envoyer des équipes, pour qu'elles bossent sur des projets, machin, etc. » Et on trouvait ça dingue. Et maintenant, vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, bah, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire. C'est-à-dire que vous avez plus d'entreprises du CAC 40 et du SBF que de petites entreprises qui ont pourtant un intérêt à y trouver.
Chez nous, infiniment plus. La réalité, c'est que la flexibilité, c'est pas uniquement pour des petites start-up. D'ailleurs, c'est pas forcément le marché que vous voulez adresser à la petite start-up parce que dès la première crise, ils vont réduire la voilure, voire disparaître. Mais tous les grands groupes aujourd'hui expriment ce besoin d'avoir davantage de flexibilité et de service. Et un chiffre qui m'a toujours marqué, c'est que 6 ans, c'est la durée moyenne d'un bail en France et 6 ans, c'est l'espérance de vie moyenne d'une entreprise. Alors évidemment, quand on a un grand groupe, on a passé ce seuil des 6 ans.
Ouais.
Mais la flexibilité, regardez, en fait, demander à un patron du CAC 40 de se projeter à 6 ans en lui demandant quelle est la taille de son entreprise demain, il en sera incapable. Cette flexibilité est désormais le besoin de tout le monde et c'est là le grand problème des foncières et des acteurs du marché qui ont été assis pendant trop longtemps sur un tas d'or en pouvant se permettre de parler à leurs utilisateurs que tous les 5 ans et demi et leur seul client c'était le directeur immobilier.
Ouais.
Le client est devenu l'employé parce que les employeurs doivent désormais expliquer à leurs employés pourquoi ils doivent venir au bureau. Il y avait un très bon rapport de McKinsey Lander qui disait qu'il faut « earn the commute », il faut légitimer pourquoi je demande à mon équipe de revenir au bureau les jours où je demande de revenir au bureau. Et cette flexibilité, elle est appelée par tous.
Le mot de la fin, on va le confier à Michel P, un de nos auditeurs réguliers qui vient de rebondir à notre antenne. Victor, est-ce qu'il nous demande, il nous affirme que la transformation en logement pourrait représenter un levier pour le marché immobilier? Du logement, c'est quelque chose que vous pourriez intégrer à l'offre Comet à terme?
Oui, très bien. Il y a une vraie synergie avec une offre hôtelière, notamment une offre hôtelière court terme, même si nous, notre puissance, la puissance de Comet, c'est de dire qu'on va transformer du bureau qui a un problème en du bureau, mais du bureau qui fonctionne.
Du bureau sans problème, c'est Comet, C-O-M-E-T. Merci beaucoup Victor Caro pour cette tribune sur les crises de l'immobilier de bureau et quelques solutions qui sont à portée de main. Merci Marie, à demain. Vous restez avec nous, on revient dans quelques minutes, on va s'occuper de votre livret A, enfin surtout de votre livret A s'il est maxé. On va vous dire ce qu'il faut en faire de ce livret A et puis après ça, on va investir dans les savoir-faire ancestraux avec la maison d'enchères Agut. On va parler d'horloge de bureau, on va parler d'émo et on va parler également de masque de sarcophage. A tout de suite.
BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
Tout pour investir dans et en dehors de votre livret A. Christian Fontaine est parmi nous. Bonjour Christian.
Bonjour à tous.
Directeur délégué de la rédaction du Revenu avec nous pour parler du placement préféré des Français, le livret A. Le livret A est-il un bon placement ?
That's the question. C'est vrai qu'en apparence, on aurait tendance à répondre oui, mais il suffit de regarder le montant moyen sur le livret A. Il y a 5 ans, c'était 4 000 euros. Aujourd'hui, c'est 7 000 euros. Donc, les Français répondent oui. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Le livret A, c'est quoi ? C'est sans risque garanti par l'État, c'est sans frais, c'est sans impôts, c'est sans prélèvements sociaux. Alors, le seul petit hic qu'on ne regarde pas assez, c'est le rendement, en fait. Lorsque vous regardez le rendement du livret A sur le long terme, alors tout dépend un peu des périodes considérée, mais vous remarquez qu'il est inférieur à l'inflation. Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'un placement, même sans risque, donc sans frais et sans impôts, qui ne garantit pas le pouvoir d'achat de l'argent qui y est placé, ça pique tout de même un tout petit peu. Hein. On rappelle que très concrètement, ça signifie que même si vous n'effectuez aucun retrait, si vous n'effectuez aucun versement sur livret A, à la fin de l'année, vous aurez peut-être davantage d'argent, mais vous pourrez acheter moins de biens et services. Donc, je ne sais pas pour vous, mais franchement, c'est pas sur le papier comme ça, dit comme ça, c'est pas le placement idéal. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle pour le livret A, il faut en parler parce que ça date de vendredi dernier. Vendredi dernier, l'INSEE a publié son chiffre d'inflation provisoire pour le mois de mars et c'est plus 3% sur 12 mois. Et donc, plus 2,3% sur 12 mois. Et donc, 2,3%, mais c'est enfin, l'inflation en France est enfin inférieure au rendement du livret A. Donc, pour l'instant, au moment où je vous parle, au jour où je vous parle, le 2 avril, vous gagnez de l'argent avec le livret A, mais c'est pas vrai. Donc, alors, sur des périodes un peu plus longue, par exemple sur 10 ans, l'inflation est en moyenne à 1,7% et la rémunération moyenne du livret A sur 10 ans c'est 1,1%, donc 0,6 points quand même d'écart.
Et oui, au revenu, vous suivez depuis longtemps ce livret A, vous avez travaillé sur une data visualisation sur 30 ans qui est très intéressante, qu'on va peut-être voir à l'écran et qu'on pourra retrouver dans le revenu. Le livret A, c'est toujours la question, est-ce que c'est mieux ou moins bien que l'assurance vie, d'après vos petits chiffres?
Alors, c'est moins bien. Et puis c'est surtout différent. En fait, le livret A, c'est le top du top pour placer l'argent des courses, pour placer l'argent des vacances. Donc alors, pour placer, je dirais, cette épargne de précaution. Et ça, il n'y a pas mieux que le livret A. Maintenant, l'assurance vie, donc alors, c'est un placement complémentaire. C'est plus un placement de moyen et de long terme. Mais c'est quand même un placement qui est bien plus rémunérateur sur la durée que le livret A. Donc j'aurais tendance à dire qu'il faut l'un et l'autre. Après ça, si on regarde un tout petit peu dans les détails. Fiscalité d'abord. Fiscalité, on va dire ex-aequo. D'un côté, le livret A, 0 € d'impôts et de prélèvements sociaux sur vos gains.
C'est difficile à battre,
on ne peut pas faire mieux. D'ailleurs, l'assurance vie ne fait pas mieux. On va dire que c'est à minima 17,2 sur vos gains. Par contre, l'assurance vie est hors succession. Tandis que le livret A rentre donc dans l'actif soumis au droit de succession. Donc là, l'assurance vie, c'est mieux sur le plan successoral que le livret A. Rendement, on a déjà pas mal parlé. Il y a, vous parlez, là aussi, il n'y a pas photo. L'assurance vie sur 30 ans, par exemple, c'est plus 3,8% en rendement moyen annuel entre 1994 et 2023. Le livret A, c'est 2,2%. Une autre durée, sur 5 ans, l'assurance vie en euros, c'est 1,7%. Donc, alors, le livret A, c'est 1,3%. Donc, l'assurance vie est plus rémunératrice. Pourquoi aussi ? Parce que sur l'assurance vie, vous savez, c'est une enveloppe fiscale et pas un placement. Et au sein de cette enveloppe fiscale, vous choisissez d'investir dans les supports plus ou moins risqués. Donc, vous avez la possibilité de gagner bien plus. Troisième critère de comparaison entre ces deux, je dirais, placements vedettes, la liquidité, la possibilité de récupérer son argent à tout moment. Là, plutôt, je dirais, un léger avantage au livret A, puisque le livret A, bon, il faut exactement 3 secondes, donc alors depuis votre smartphone, donc alors pour faire passer de l'argent, donc alors de votre livret A, donc alors à votre compte courant ouvert auprès de la même banque. Pour un contrat d'assurance vie, il faudrait nuancer parce que des gros progrès ont été réalisés, mais il faut quand même au minimum quelques jours. Bon. Dernier élément de comparaison, c'est le risque. D'un côté, un produit garanti par l'État. De l'autre côté, un produit, en tout cas pour le fonds en euros, donc qui est garanti par les compagnies d'assurance. Voilà. Donc, pour résumer, en fin de compte, c'est deux produits différents, deux produits largement complémentaires.
Bon, je pense aux jeunes parents qui nous écoutent, aux grands-parents, ou bref, à tous ceux qui ont des enfants dans le radar. Où mettre de l'argent quand un enfant naît? Enfin, plutôt, qu'est-ce qu'on ouvre? On ouvre une assurance vie ou un livret A à son enfant?
Traditionnellement, en France, on ouvre un livret A. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie de prendre des risques avec l'argent que l'on met, qui sera destiné à un nouveau-né. Voilà. Mais en fin de compte, lorsqu'on regarde un tout petit peu dans les détails, on se rend compte que cet argent, il va rester placé, non pas pendant quelques jours, pendant quelques mois, mais sans doute peut-être jusqu'aux 18 ans de cet enfant qui vient de naître. Et que donc, les caractéristiques du livret A, qui sont plutôt un placement de court ou moyen terme, ne sont pas adaptées à la durée du placement qu'on va ouvrir pour un enfant. Donc oui, à la naissance, vous avez entièrement raison, il faut ouvrir un contrat d'assurance vie et ne pas hésiter pour prendre date et ne pas hésiter aussi à prendre des risques. Lorsqu'on laisse l'argent des étrennes donné pour ce nouveau-né pendant 18 ans, on peut se permettre de placer l'intégralité en bourse. Et là, au contraire, ne pas placer la totalité sur un livret A qui va vous rapporter moins que l'inflation sur 18 ans, c'est là on prend des risques. On prend des risques en ne prenant pas de risques avec le livret A. Et ça, c'est bien le problème, quoi. Donc, à la naissance, le bon réflexe, on ouvre un contrat d'assurance vie et on n'hésite pas à l'alimenter à chaque Noël, à chaque anniversaire, à chaque fois qu'il y a une bonne raison. Alors, attention, on n'y place pas des sommes considérables. D'ailleurs, c'est surveillé comme le lait sur le feu, à la fois par l'administration fiscale et par les assureurs, puisqu'il y aura un risque de donation des si oui. Vous placez 5, 10 000, 15 000, 20 000 euros chaque année sur un contrat d'assurance vie ouvert au nom d'un nouveau-né, c'est une forme de donation déguisée. On est au-delà du présent d'usage. C'est pour ça que vous ne pouvez mettre sur un contrat ouvert au nom d'un enfant, voire au nom d'un petit-enfant, voire au nom d'un arrière-petit-enfant, que ce qu'on appelle des cadeaux, des présents d'usage sur le terme juridique, c'est-à-dire qui sont donnés à une occasion particulière et qui sont proportionnels au montant de votre patrimoine. Donc, généralement, c'est quelques centaines, au maximum quelques milliers d'euros par an. Donc, on ouvre, pour répondre à votre question, Lorraine, on ouvre à la naissance plutôt un contrat d'assurance vie plutôt que ce bon vieux livret A qui va vous rapporter moins que l'inflation.
Assurance vie, hop, en risque neuf, en gros, c'est ça, pour les nouveau-nés. Il y a toute une question, d'ailleurs, autour des couples qui se séparent. Les couples se séparent, quand il y a des divorces, qui se garde la main sur le livret A et l'assurance vie? Mais on en reparlera, parce que ces sujets de divorce et patrimoine, ils viennent, évidemment, régulièrement dans nos boîtes mail, cher Christian. Question toute simple. Qu'est-ce que je fais si mon livret A est maxé, s'il est plein? On rappelle, 22 950 euros.
Alors, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, le montant moyen sur le livret A est passé de 4 000 à 7 000. Il a quasiment doublé en 5 ans. Et donc, effectivement, beaucoup, en tout cas un certain nombre d'épargnants, aisés entre guillemets, ont des livrets A au plafond. Donc, vous avez évidemment le petit frère du livret A qu'on appelle le livret de développement social et solidaire, LDDS, que vous pouvez aussi alimenter à hauteur de quelques 12 000 euros de mémoire. Et puis après ça, vous pouvez regarder, il y a encore des offres intéressantes, ce qu'on appelle les comptes à terme. Vous savez, les taux d'intérêt à court terme vont baisser, sans doute au mois de juin, et donc la conséquence immédiate pour les épargnants, ça va être que les comptes à terme vont diminuer aussi. Et donc, si vous avez aujourd'hui la possibilité de placer à 1 an, 3 ans, 5 ans, à un taux relativement intéressant, il faut challenger votre banque là-dessus. L'avantage des taux des comptes à terme, c'est qu'ils sont gelés. Si vous négociez aujourd'hui avec votre banque un taux pour un compte à terme, un CAT à 1 an, quelle que soit l'évolution des taux sur les marchés monétaires, vous profiterez de ce taux que vous avez négocié avec votre établissement financier. Alors, ça, c'est pour répondre très concrètement à votre question, mais on peut aussi prendre un tout petit peu de recul et se dire, est-ce que j'ai pas trop d'argent sur ces placements liquides et sans risque? Vous savez, on dit souvent, en France, qu'il faut considérer, il faut placer l'équivalent de 3-4 mois de revenus sur un livret A. En fait, on regarde, lorsqu'on regarde les portefeuilles des Français ou les économies des Français, c'est pas 3-4 mois qu'ils ont sur leur livret A, mais ils ont 3-4 ans de revenus sur des livrets fiscalisés ou défiscalisés. Donc, ils ont beaucoup trop d'épargne liquide. Donc, si votre livret A est au plafond, la vraie question et le bon raisonnement, c'est à se poser, mais est-ce que j'ai pas trop d'épargne liquide? Et est-ce que, dans un pays où la prévoyance est aussi développée qu'en France, vous pouvez vous permettre d'avoir uniquement 10, 20 000 euros sur un livret A et tout le reste, le placer sur un contrat d'assurance vie, le placer en bourse, le placer dans l'acquisition d'un bien immobilier? C'est ce type de raisonnement qu'il faut avoir, en tout cas qu'on pousse au revenu.
Voilà, challenger l'utilisation de votre livret A, peut-être ne pas le maxer si vous l'avez maxé et alloué. Vous avez dit, les Français, ils ont à peu près 7 000 euros.
Le montant moyen aujourd'hui sur un livret A, ça tourne autour de 7 000 euros.
Bon, question très concrète d'un de nos auditeurs, Arnaud, qu'on salue. Il a 20 000 euros sur un livret A. Il voudrait acheter des places de parking. Arnaud, vous avez encore des voitures ? Il hésite entre...
Il y a encore des voitures en province, même à
Paris. Bien sûr. J'espère que nos auditeurs qui nous écoutent en voiture, d'ailleurs, écoutent attentivement. Il veut acheter des places de parking. Il se demande s'il doit les acheter avec ce qu'il y a sur son livret A ou bien avec un crédit. Alors, on se parle, attention, on est début avril 2024.
Oui, alors, mais tout dépend un tout petit peu de ses objectifs. S'il a besoin de revenus complémentaires immédiats, il doit payer cash. Maintenant, s'il veut faire une opération patrimoniale avec un peu plus d'envergure, profiter de levier du crédit, il peut éventuellement et sous condition emprunter, donc pour non pas peut-être acheter un, mais deux parkings, sachant que bien sûr dans ces cas-là, il n'achètera pas dans le cœur de Paris, donc alors mais plutôt en province, puisque avec 20 000 euros, ça sera pas du tout suffisant. Donc, bien sûr, s'il envisage une opération à crédit, qui est une opération, je dirais, beaucoup plus ambitieuse sur le plan patrimonial, tous les mois, la première différence, c'est que tous les mois, il va devoir rembourser la banque, et donc il n'aura pas de revenus complémentaires. Bon. S'il rembourse la banque, l'avantage, c'est que les intérêts d'emprunt viendront en déduction sur le plan fiscal des loyers qu'il aura encaissés, ce qui réduira la facture fiscale. Donc ça, c'est à souligner. Maintenant, l'élément clé, en fait, c'est qu'il faut voir quel est le rendement de son opération, c'est-à-dire quel est le rendement brut avant impôts et charges de son parking. À Paris, on peut tourner assez facilement entre 5, 6, 7%, en province aussi 7, 8%. Et à combien peut-il emprunter aujourd'hui sur 15 ans? Sur 15 ans, un taux moyen autour de 3, 5, 4%. Attention, il faut ajouter aussi l'assurance décès invalidité qui va dépendre de votre âge. Ça peut être 0,1%, mais ça peut être 1 ou 2% si vous n'avez plus 25 ans. Donc voilà, s'il emprunte, ce qui est très important, c'est que son opération doit lui rapporter davantage que le coût du crédit. Donc ça dépend à la fois d'éléments techniques qu'on vient d'évoquer ensemble, et puis ça dépend bien sûr aussi de ses objectifs. Est-ce qu'il a besoin de revenus complémentaires ou est-ce qu'il veut faire une opération patrimoniale à crédit un peu plus ambitieuse?
Ce qu'on pouvait vous répondre, cher Arnaud. Merci Christian Fontaine de l'équipe du Revenu. Le Revenu qui est à retrouver en kiosque digital et papier, qui titre sur les meilleurs contrats d'assurance vie, ceux ouverts à tous. Et pour les petits chiffres dont nous parlions tout à l'heure sur les meilleurs placements dans la durée, je vous renvoie au Revenu du mois de février. Je dis pas de bêtises?
Vous ne dites pas de bêtises, tout à fait. Toujours en vente en kiosque, puisque c'est un spécial guide fiscal et on va rentrer dans la période de déclaration des revenus 2023 à partir d'ici d'une dizaine de jours de mémoire.
Voilà, faites vos choix. En tout cas, le livret A qui déçoit, ce qu'on peut dire sur les durées. Et cette réflexion, ce conseil patrimonial, réfléchissez à ce que vous mettez, le montant que vous mettez sur votre livret A pour l'optimiser finalement. Merci Christian, cette séquence est à retrouver en podcast et en replay sur notre site web d'ici quelques minutes. Christian Fontaine du Revenu tous les mardis avec nous. Vous restez branchés, Tout pour investir, ça n'est pas fini. Nous allons investir différemment. Nous allons investir thématiquement dans des objets d'art. La maison Agutte avec nous dans quelques secondes. À tout de suite.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement dans les objets d'art, les objets qui sont le fruit du travail de l'être humain, c'est ce dont nous allons parler pendant quelques minutes avec vous, Grégoire de Toury. Bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes expert en mobilier et objets d'art de la maison Agutte. Vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec une clé. On va commencer cette séquence en décrivant cette clé. Clé de Tarare. Pour ceux qui nous écoutent à la radio aussi,
Parlez-nous de cette clé.
Regardez cette clé. C'est une clé extraordinaire. Vous avez vu son format. Déjà, c'est un objet qui est absolument remarquable par sa taille. Évidemment, techniquement, il est aussi remarquable. Vous avez du bronze ici. C'est très joli. Une belle figure de Silène qui repose sur une outre de vin. Et ici, ce qu'on appelle le paneton, qui est en fer forgé. Alors, cette clé, c'est une clé qui date de l'Antiquité. Elle a plus de 2000 ans et elle a été retrouvée près de Lyon, dans la ville de Tarare, dans une vigne où des ouvriers travaillaient évidemment la terre. Et c'est à cette occasion que cette superbe clé a été donc considérée comme la plus belle clé de toute l'Antiquité.
C'est une très grosse clé, pardon, dire ça comme ça.
Absolument.
Elle fait quoi, 20 cm?
Oui, c'est ça, exactement. Vous voyez, voilà, avec ces deux parties très distinctes. Et c'est un objet d'art majeur qui a été trouvé chez une de nos clientes qui s'est posé la question de sa valeur. Alors évidemment, lorsqu'il s'agit d'expertiser un objet d'art, il y a différents critères qui interviennent. On apprécie évidemment le savoir-faire technique qui a été employé. Vous voyez ici ces métaux dont j'ai parlé. Vous avez le bronze en haut et vous avez le fer forgé en partie basse. On voit que c'est un travail élaboré, donc on suppose une importance. Ensuite, il y a la question de la provenance et à travers différents travaux de documentation, cette provenance a été établie comme étant une clé qui était tout à fait documentée au 19e siècle. Elle a même figuré lors de l'exposition universelle de 1867. Et elle était alors décrite comme la plus belle clé de l'Antiquité. Celles qu'on a dans le musée ne peuvent pas rivaliser avec celle-ci, mais même dans le monde entier, vraiment, c'est la plus belle.
On parle d'un objet qui a traversé non seulement les années, mais les siècles, puisqu'elle date de l'Antiquité. Cette question au quotidien de la provenance et de l'authenticité des objets d'art que des gens trouvent par hasard dans leurs héritages ou dans leur famille. Elle se pose souvent chez vous ?
Systématiquement. Apprécier un titre financier qui est l'objet d'art passe par de multiples étapes qui sont notamment l'identification de ce qu'est l'objet en soi sur le plan technique, le situer aussi dans le contexte historique, à quoi ça sert, comment c'est fait. Et bien entendu, cette question de la provenance est déterminante pour valoriser un objet. On a toujours une fourchette d'estimation qui est donnée. Par exemple, cette clé sera proposée aux enchères prochainement avec une estimation de 4 à 6 000 euros. Cette fourchette-là est une valorisation qui doit être posée systématiquement sur tous les objets qui passent en vente publique. Et pour cela, la question de la provenance est absolument déterminante. Parce qu'évidemment, une clé qui aura été fabriquée pour un grand prince n'est pas la même chose qu'une clé qui a été fabriquée pour vous ou pour moi, hélas.
On sait pour qui était destinée cette clé ? À
non.
Qui elle était destinée ?
Malheureusement, on ne sait pas, mais on peut évidemment supposer une importance absolument prestigieuse, parce que ce n'est pas le commun des mortels qui bénéficie déjà d'une serrure comme celle-ci.
De cette taille-là, ouais.
On imagine une villa gallo-romaine au milieu des champs, et c'est donc certainement... Mais là, c'est une supposition. C'est quelqu'un d'important, mais c'est certainement un général romain en retraite qui s'est retiré, évidemment, sur les terres gauloises pour y vivre de paisibles heures.
Grégoire, vous êtes expert en objets d'art. Qu'est-ce qui vous a amené à ces objets d'art ?
Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. J'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir été entouré de beaux objets sur lesquels personne n'était vraiment capable de me renseigner précisément. Je suis allé chercher les informations par moi-même. Et cette démarche systématique de l'enquête a suscité chez moi ce besoin d'aller chercher l'information exacte et d'aller renseigner surtout tous ceux qui en ont besoin.
C'est cette envie d'enquête qui anime aussi ceux et celles qui viennent participer aux enchères et qui viennent pour acquérir des objets comme cela.
Exactement. En fait, ce qui est assez formidable dans ce métier des ventes aux enchères publiques, tel que je le pratique avec la Maison Agutte, c'est de pouvoir transmettre au plus grand nombre, avec une exposition publique qui précède la vente systématiquement, auquel tout le monde est bienvenu. Et ça, c'est assez essentiel de l'avoir en tête. On apprend. Et non seulement on apprend à travers une description qui est transmise par des gens passionnés comme moi, mais aussi on peut acquérir et toucher. Et ça, c'est formidable parce qu'en termes d'apprentissage, lorsque vous touchez un objet, vous ressentez les choses de manière tout à fait singulière et vous vous l'appropriez. D'ailleurs, vous pouvez le faire avec la dynamique des enchères.
Vous êtes un formidable conteur parce que cette clé d'antiquité assez cryptique quand même quand vous arrivez avec, eh ben, elle nous semble très familière maintenant que vous nous l'avez décrite. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques autres objets comme ça que vous avez vu passer en vente ou que vous allez faire passer en vente prochainement ou dont on peut s'approprier l'histoire?
Absolument, avec joie. C'est plus de 2000 objets qui passent chaque année dans mes mains, avec 11 ventes l'année dernière, donc 4 grandes ventes qui rassemblent des pièces de choix qui ont été sélectionnées par les soins de la Maison Agutte. Et vous avez notamment 2 grandes spécialités que vous retrouvez au rythme de ces 4 grandes ventes annuelles, qui sont respectivement les arts dits classiques, avec le mobilier et les objets d'art plutôt dorés, plutôt Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, et le mobilier bien entendu. entendu, et aussi les ventes dites de haute époque, que j'affectionne particulièrement, qui touchent à l'art médiéval jusqu'à la Renaissance. Et donc là, on peut retrouver des pièces qui sont par exemple des émaux. Alors imaginez un peu la photographie d'autrefois qui se retrouve être peinte avec une technique très très singulière qu'on appelle l'émail peint, donc du sable posé sur une plaque de cuivre qui va être cuite, qui va assembler les coloris et sortir une image à travers différentes cuissons successives. Cet objet d'art est évidemment techniquement extraordinaire et était réservé aux plus grands. Et cet apanage des plus grands se retrouve aujourd'hui dans nos ventes parfois, et on peut en faire l'acquisition, bien entendu.
Un émail, des émaux. Concrètement, comment on peut en acheter? Quelles sont les pièces, j'allais dire, d'usage sur lesquelles on peut retrouver des émaux?
Les pièces d'usage sur lesquelles on peut retrouver...
Les
objets. Alors, vous avez déjà le portrait en soi, qui est cet émail peint, qui est une représentation...
Comment on achèterait une peinture, une sculpture.
Exactement, tout à fait. D'ailleurs, c'est un sujet qui s'accroche à un mur, généralement encadré, et qui a toujours été ainsi considéré comme de l'art pour l'art. Beau parce que c'est véritablement inutile. C'est juste beau en soi et techniquement. Mais vous avez aussi l'émail utilitaire. On a ce qu'on appelle l'émail chanlevé, l'orfèvrerie limousine. Et l'émaillerie limousine en est un bel exemple qui s'est exprimé sur différents siècles. Et vous avez des objets d'usage. Des calices, des pyxides, qui sont des boîtes dans lesquelles on met les hosties consacrées. Vous avez aussi des reliquaires et des colombes eucharistiques. Donc imaginez une colombe, une jolie petite colombe, à l'intérieur de laquelle on vient placer ce qu'on appelle le Saint-Sacrement, c'est-à-dire le pain consacré et qui plane au-dessus de l'autel de manière tout à fait magique et transcendantale. Ce sont des objets qu'on peut acheter évidemment aux enchères chez Agut.
Alors justement, vous le savez, je pose toujours cette question dans cette séquence. Nous sommes une émission d'investissement. On parle donc argent, placement, rendement. Aujourd'hui, les objets de collection, les objets d'art, ou peut-être le mobilier, puisque vous y faisiez référence, avec lesquels on peut rentrer dans votre univers, Grégoire, il faut regarder en particulier quel type d'objet et quel est le budget auquel on peut commencer, à partir duquel on peut commencer à devenir collectionneur dans ce qui vous concerne.
Excellente question. C'est un marché à deux vitesses. Le marché des ventes aux enchères publiques du mobilier et des objets d'art anciens répond à une logique qui est assez, bicéphale, en cela que vous avez d'une part des objets de très grande qualité qui appartiennent à un faible pourcentage qui, eux, représentent en termes d'investissement une valeur sûre, c'est-à-dire qu'elle a tendance à ne pas se dévaluer dans le temps. Ça représentait une grande somme d'argent pour un commanditaire d'autrefois, ça représente toujours une grande somme d'argent aujourd'hui qui ne se dévalue pas. Prenons pour exemple une pièce telle que la guitare de Marie-Antoinette qui est passée entre mes mains, qui a évidemment, lorsqu'elle a été commandée à ce luthier par la reine, représenté une grande somme d'argent, et qui, au moment où elle s'est revendue par nos bons soins, a toujours représenté cette grande somme d'argent, à savoir 60 000 euros, qui a priori ne devrait absolument pas d'évaluer. Mais d'une autre phase, d'un autre aspect, nous avons aussi les objets plus ordinaires. Comme je vous le disais, tout ceci est tributaire des modes et des intérieurs. Et donc le mobilier des 17e et 18e siècles est aujourd'hui, dans son ordinaire, dévalué. Comprenez par ordinaire qu'il n'a pas de provenance particulière, comme on en a parlé tout à l'heure, et qu'il n'est pas techniquement remarquable. Il est évident que les biens techniquement remarquables avec une belle provenance se distinguent et sont des placements sûrs entre eux. Le reste, le plus ordinaire dont nous venons de parler, est accessible pour quelques centaines d'euros.
Voilà ce que vous pouviez retenir de l'expertise de Grégoire de Toury, expert en mobilier et en objets d'art de la maison Agut. Cette chronique est à retrouver en podcast et en replay d'ici quelques secondes sur le site BFM Business. Une vraie leçon d'art et d'investissement. Merci beaucoup Grégoire et toute l'équipe d'Agut. Ils font une tête pas possible. Amaury de Tonquédec et Sofiane Aklouf nous ont rejoints. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Oui, Marie-Antoinette faisait de la guitare. Ça vous embouche à cran tous les deux. Sofiane, vous prenez les manettes avec vous dans quelques secondes. Quel est le programme de l'émission?
Eh bien, la question que j'ai envie de vous poser, c'est un quart, la moitié, trois quarts ou plus. On parle du nombre de réunions inutiles. J'espère pour vous que c'est pas trop élevé quand même. Non.
On essaie d'y faire attention, on est efficace avec Lorraine.
Ah, voilà. Nous, c'est aucune réunion de plus de 20 minutes et aucune réunion passée 14
heures. Vous avez bien raison, mais en tout cas, parmi les travailleurs interrogés, beaucoup nous disent que elles sont beaucoup trop nombreuses, ces réunions, et que la France a la réunionite aiguë, on en parlera dans un instant, et puis au programme également, la pénurie de main-d'œuvre. On va l'évoquer, cette pénurie, dans l'hôtellerie-restauration, à l'approche des JO de Paris 2024. Thierry Marx sera en direct avec nous pour nous témoigner des difficultés de main-d'œuvre qu'il connaît déjà à l'approche à 100 17 jours exactement des JO de Paris.
15h, pas une réunion inutile, non, c'est BFM Crypto, le club. Amaury, quel est le programme de l'émission?
On l'a appris en fin de semaine dernière, Sam Bankman-Fried, le fondateur de la deuxième plateforme d'échange, de l'ex-deuxième plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, a été condamné à 25 ans de prison. C'est bien, mais ce qui intéresse les gens qui nous suivent, c'est quand est-ce qu'ils seront potentiellement remboursés, et ça pourrait arriver d'ici la fin de cette année. Donc on en parle tout à l'heure à 15h, on fait le point sur tout ça.
Un an et demi de procédure pour le mettre en prison ou pour que la justice se fasse, à comparer avec le Madoff du Maine-et-Loire qui a été condamné la semaine dernière au bout de 10 ans de procédure. C'est un fait. Messieurs, merci beaucoup. C'est le programme de BFM Business dans les minutes à suivre. Avec vous, midi, BFM Crypto, le club, 15h et 21h30 et bien sûr, n'importe quelle heure, en podcast. Le Bitcoin, on se quitte là-dessus, qui se traite autour de 66 097 euros. À demain. Dollars, pardon. 66 000 dollars. À demain.
Tout pour investir sur BFM Business.